La température est idéale au bord de la piscine des Mille Collines. Dans cet hôtel 4 étoiles au cœur de Kigali, tout est feutré, douillet, agréable. Le client y est roi. Et s'il n'est pas féru d'histoire, il ne peut pas imaginer le massacre atroce qui se déroulait là il y a précisément 29 ans. Anne, elle, est assise sur un transat bleu, la tête abritée sous un parasol et sous un bob bleu, lui aussi. Et à l'intérieur, des images terribles défilent. Elle se lève, le regard sombre, s'enveloppe dans son pareo et va faire quelques pas dans le jardin. Elle regarde les arbres, scrute les palmes qui se balancent dans la brise de ce début d'été. Elle se dit que si ces végétaux pouvaient parler, ils auraient bien des drames à raconter. Elle pense à ceux que lui a rapporté Odette avant son départ de Suisse. Elle revoit son visage si doux et ses yeux noirs empreints d'une tristesse indélébile, malgré le sourire permanent sur ses lèvres.
Pendant le génocide, je venais d'avoir 23 ans. Comme le génocide a commencé, c'était pendant les vacances de Pâques. Et les soldats sont venus, ils ont séparé les hommes et les femmes, et tous les hommes qui étaient avec nous ont été tués.
Anne est sous un long palmier au tronc fin et rugueux. Elle s'y adosse et ferme les yeux. Elle se demande si c'est l'arbre d'Odette, celui que la jeune femme avait regardé quand les miliciens avaient envahi l'hôtel, persuadée qu'elle vivait ses derniers instants. Elle essaye d'imaginer la terreur de la jeune femme, le chaos autour d'elle et ses yeux noirs encore empreints d'espoir prendre soudain cette nuance plus désespérée qui ne la quitterait plus. Adossée à l'arbre, Anne se sent rapetissée. Elle porte des couettes et de longues chaussettes dans des souliers en cuir et elle est elle aussi plongée dans une sorte de chaos, mais un chaos aux conséquences moins dramatiques.
C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Aïe la vache, pousse-toi. Dans la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres. Des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant les manifestants. Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain. Et il y a une femme qui est allongée. Elle est allongée, elle est complètement en sang. Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez.
Le jardin de l'hôtel des Mille Collines à Kigali a soudain cédé la place aux rues du quartier latin, où Anne vivait son premier événement politique en direct. Et elle repense à son père, ce journaliste correspondant d'un journal suisse à Paris, qui fut longtemps son modèle, à elle, petite fille qui voulait elle aussi se lancer dans le métier. Ce jour-là, avec sa copine Claudine, elle avait mis son projet à exécution.
Je pense à mes deux filles, par exemple. J'avais deux filles, à l'époque, qui avaient 10 et 8 ans, et je me souviens de l'aînée Anne qui vivait ça. Donc il y avait, les écoles étaient fermées. Donc mes deux filles vivaient ça, surtout l'aînée, avec intensité, faisant une enquête dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez des étudiants? Est-ce que vous êtes d'accord osez avec les étudiants, etc. Et tout. Donc je dirais il y avait une espèce d'ambiance, à la fois d'ambiance à la fête, d'ambiance comme ça de folie un peu libertaire. Et c'est vrai que c'est pour le jeune journaliste que j'étais, je dirais dans toute, si j'ose utiliser ce terme, dans toute ma carrière, un des grands moments, j'entends par là, de vivre l'histoire en direct.
Êtes-vous pour De Gaulle ou pour les étudiants? Répète Anne, adossée à son palmier en maillot de bain et pareo. Vivre l'histoire en direct, comme disait son père, ce jour de mai 68 l'avait secoué. C'était sa toute première prise de conscience politique. Anne quitte le tronc de son palmier, ou plutôt du palmier d'Odette, comme elle le bâtit sur le champ, et elle se dirige vers l'imposant bâtiment de l'hôtel des Mille Collines. Elle se dit que ce que lui a raconté Odette est aussi un récit d'histoire en direct, une histoire sombre, comme beaucoup d'autres histoires vécues sur ce territoire si difficile à comprendre. Arrivée dans sa chambre, Anne passe un pantalon et un t-shirt sur son maillot, elle descend vers le bar à tapas, logé sous un toit de paille. Elle frissonne en repensant aux cris des hommes égorgés à la machette, exactement au même endroit, bien des années auparavant. Elle repense à ses élèves, à ses classes dans lesquelles elle répétait inlassablement les horreurs de la Shoah, du génocide arménien et des années qui ont suivi avec cette promesse de « jamais plus ». Force lui est de constater que cette promesse était vaine et que le monde ne cesse d'être agité par les pires atrocités commises par des humains envers d'autres humains. Depuis qu'elle a quitté son métier d'enseignante, elle a lutté à sa mesure pour faire régner plus de justice sociale. Elle songe à son statut de femme, à son éducation féministe et à la bienveillance de ses parents. Car si son père était son modèle professionnel, sa maman, probablement, lui a montré par l'exemple que le destin d'une femme n'était pas inéluctablement voué à rester derrière les fourneaux ou le berceau.
La majorité des garçons et des filles ont en eux l'idée que les filles, leur rôle premier, essentiel, va être actuellement d'abord de se marier et d'avoir des enfants. Et qu'elles vont avoir un métier, ça elles sont bien d'accord, mais que ça sera, si vous voulez, elles auront un métier accessoirement, voire provisoirement. Et le pire, j'ajouterais, si vous permettez, que même lorsqu'elles font des études longues et poussées, il est à craindre qu'un jour, si par exemple elles décident de mettre des enfants au monde, elles aient à choisir. Et on voit très souvent autour de nous des jeunes universitaires arrêter complètement soit leurs études, soit leur profession, le jour où elles décident de mettre au monde des enfants. Donc il ne suffit pas encore d'avoir une formation, et là nous retombons sur le partage des tâches, il suffit d'avoir la possibilité en temps pour pouvoir investir ailleurs.
Anne commande un gin tonic et quelques olives. Elle contemple les dizaines de petites lampes comme des bougies qui donnent un caractère féerique à la pelouse plongée dans l'obscurité, qui ici tombe très vite. Elle voit au loin les palmes de l'arbre d'Odette qui semble lui faire signe, alors elle se replonge dans le livre qu'elle a posé devant elle. Il est temps qu'elle donne vie à son ouvrage, maintenant qu'elle peut se consacrer entièrement à la recherche historique. Elle prend une gorgée de sa boisson délicieusement amère et citronnée, et en croquant dans une olive verte, elle se plonge dans la biographie d'André, un homme très mystérieux et carrément trouble, qui harangua longtemps les foules de fidèles dans les églises du Rwanda.
Moi, je pense qu'il y a eu l'intervention diabolique à travers tout ça. Je pense qu'on peut le dire. Ce fut littéralement diabolique. Comment se fait-il que des humains, des Rwandais, connus pour leur tempérament plutôt pacifique, et sombrés dans pareille barbarie, eh bien pour moi, c'est inexplicable.
En terminant son verre, Anne referme le livre, déterminée à poursuivre l'écriture de son ouvrage. Car contrairement à André, aussi appelé Monseigneur Père Audin, elle est persuadée que le diable n'a rien à voir avec le massacre des Tutsis au Rwanda. Au loin, se découpant sur le ciel sombre, les feuilles du palmier d'Odette s'agitent soudain, comme pour signifier à Anne qu'elles sont complètement d'accord avec elle.
Merci Mélanie, merci Renaud pour ce portrait. On entendait pas mal de voix qui vous sont familières, Anne-Emerie Torrensanta.
Merci en tout cas, c'est un portrait magnifique et j'ai un peu d'émotion parce que j'ai réentendu mon père et ma mère qui est décédée en février dernier, mon père il y a 2 ans. Et je crois que les deux ont été des modèles. Et pour prendre l'exemple de ma mère, elle parlait du partage des tâches, des difficultés. Elle, quand elle a eu quelque chose comme 17 ans, elle a dit « je vais arrêter l'école ». Voilà, elle était au collège, elle a arrêté l'école. Ses parents n'ont rien dit, si ce n'est « bon, c'est pas grave, tu te marieras et tu auras des enfants ». Ce qui est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et quelques années après, son plus jeune frère a voulu faire la même chose et ses parents ont dit « il n'en est pas question, tu vas terminer, tu auras un métier, tu auras une activité professionnelle ». Donc vous voyez, là, heureusement le monde a un peu changé. Et si j'ai choisi la profession d'enseignante, c'est parce que bon, moi j'aimais beaucoup communiquer. J'aurais souhaité probablement être journaliste, mais je voulais pas être la fille de, en l'occurrence. Mais c'est aussi parce que c'est un métier qui permet de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. On a les vacances de ses enfants, on peut travailler à mi-temps en faisant un métier passionnant, et c'est même encore mieux, je dirais, de le faire à mi-temps qu'à plein temps. Voilà, donc c'était un petit peu pour tout ça. Mais je dirais que quand je suis arrivée au Conseil d'État, j'ai un mari, alors qu'il a fait un acte féministe important, il a démissionné.
Et on peut le saluer parce qu'il est derrière la vitre.
Il est là, il nous regarde. il a démissionné, il était directeur d'école, et quand je me suis retrouvée à la tête du département de l'instruction publique, de la formation de la jeunesse, c'était un petit peu compliqué d'imaginer, de l'avoir à proximité. D'autant plus qu'il me racontait toujours en riant que les séances des directeurs commençaient toujours par un petit quart d'heure où on se moquait, où on critiquait la hiérarchie, et notamment le conseiller d'État, en l'occurrence après la conseillère d'État. Donc c'est vrai que ça aurait été un peu compliqué. Donc il a démissionné et il m'a laissé la place.
Et il s'est occupé des enfants à la maison ?
Alors mes enfants étaient grands, mais en l'occurrence il s'est occupé de notre première petite fille, et c'est lui qui l'a gardée pendant les premières années, voilà.
Acte féministe, hein, vous avez dit.
Exactement.
Votre mère était féministe d'ailleurs. Hein,
ancienne Pierre, députée au Parlement quand même.
Oui, je crois qu'elle m'a montré la voie.
Elle a écrit un livre là-dessus, Le pouvoir est pour demain.
C'est ça, exactement. C'était à la suite de la non-élection de Lilian Ortenhagen, qui était la première femme qui a été présentée par les socialistes en l'occurrence.
83
Oui, 83 au Conseil fédéral et qui n'a pas été élue. Il y a eu après Elisabeth Kopp, puis plus tard Ruth Dreyfus, etc.
Donc le modèle paternel, le modèle maternel, vous êtes un peu entre deux, l'histoire c'est un peu de journalisme.
Mon père adorait l'histoire,
c'est aussi
il
beaucoup
a
de
fait
politique,
des émissions
bien évidemment.
Mais 68 que vous vivez en direct.
Alors c'est oui. Ça justement, parce que alors on va revenir sur Odette aussi, et puis tout ça est entremêlé, il y a à la fois le Rwanda, Odette, et puis on entend les barricades, les pavés de mai 68, vous avez 10 ans, ça c'est la période parisienne. Et les trois années passées à Paris entre 66 et 69, marquées par ces événements. Mais à 10 ans, qu'est-ce qu'on ressent d'une révolution comme mai 68?
C'était Jean-Claude Guibaud qu'on entendait là, qui a payé de sa personne.
C'était Jean-Claude Guibaud. D'accord, ouais, très bien, j'ignorais. Qu'est-ce qu'on ressent à 10 ans d'un événement pareil?
L'impression que, j'allais dire qu'il y a quelque chose qui se passe, que le monde est en marche, et puis qu'on est là un peu comme spectateur ou spectatrice. Moi, je me rappelle avec ma petite copine qui avait même un an de moins, elle avait un an d'avance à l'école. On interrogeait les gens dans la rue et on était très, très jalouses parce que son frère, qui avait 11 ans, était en première année du lycée. Le collège maintenant, on dit en France, à l'époque on disait déjà le lycée, il nous prétendait qu'il était dans les comités d'action lycéens. Alors, je ne sais pas si c'est vrai à 11 ans, mais on était jalouses. On
c'est
était
très
jalouses,
précoce en tout
voilà.
cas, oui.
On se disait, mais franchement, il se passe quelque chose. Et c'est vrai que le soir, on entendait les bruits, on voyait ce qui se passait le lendemain matin. J'ai une copine de classe dont la voiture avait été incendiée. Enfin voilà, donc on ne pouvait pas l'ignorer. Et oui, ça m'intéressait. Je me disais, j'essayais de comprendre ce qui se passait du haut de mes 9 ans et demi, en fait.
Alors, on entendait Claude, le papa, parler des filles, et notamment de vous, qui alliez interroger les gens dans la rue pour savoir s'ils étaient pour De Gaulle ou pour les étudiants. C'est vrai, ça?
C'est absolument vrai. Et j'ai un souvenir en particulier, une dame très BCBG, qui m'a dit, ça te regarde pas, mon petit lapin. Et j'ai tout de suite pensé qu'elle était pour De Gaulle.
Ah oui, allez savoir.
Allez savoir, mais je pense, avec le recul.
C'est votre première prise de conscience politique, c'est là qu'on trouve les ferments de votre action pour le collectif, c'est dans ces événements-là?
Probablement, mais aussi avec peut-être des parents. Enfin, on parlait politique à la maison. Moi, avec un père journaliste, j'ai des souvenirs. C'était pas toujours très agréable, d'ailleurs, pendant les repas. À midi, on avait la radio. Le soir, on avait la radio, enfin, etc. Donc, on était intéressés par ce qui se passe dans le monde. Ensuite, il a créé Temps Présent. Donc, voilà, on assistait aussi à ce qui se passe dans le monde. Donc, oui, c'est une prise de conscience. Et puis, l'idée qu'il faut agir pour changer le monde. Alors, quand on est petit, on croit qu'on va le changer en grand, entre guillemets. Et puis avec l'âge, on se rend compte que c'est des micro-changements, mais qu'il faut changer les choses autour de soi et qu'il faut, oui, jamais oublier de dire qu'on n'est que des passeurs, en fait, dans l'histoire, mais qu'on a un rôle à jouer et puis qu'il faut essayer de rendre le monde meilleur, même à son échelle.
Comme enseignante, comme historienne et comme magistrate, conseillère d'État, vous avez l'impression que vous avez un peu pu faire changer le monde?
Alors, c'est toujours difficile à dire, mais je pense qu'avec d'autres, on participe à ce changement. Vous avez parlé de l'enseignante. Quand on enseigne un génocide, quand déjà même à l'époque, j'ai parlé du génocide des Tutsis du Rwanda, que je parlais avec ce qu'on savait du rôle de la Suisse, on a déjà un rôle qui est d'essayer de faire prendre conscience aux jeunes de la réalité du monde. Après, à eux de faire leur choix. Il ne s'agit pas de les endoctriner, bien évidemment pas. Mais on doit leur faire prendre conscience de la réalité du monde et la réalité que la Suisse n'est pas un pays à part, que la Suisse fait partie de ce monde et puis qu'on doit essayer d'agir. Et voilà, et également en politique, mais en politique, c'est compliqué de faire changer les choses.
C'est plus lent,
surtout en Suisse, avec les pouvoirs contre pouvoirs. Enfin, les choses sont lentes. Et je dirais à Genève, en particulier, avec une classe politique qui est très à la française, dans un...
Ça, c'est pas un compliment. Hein.
Non, mais dans un...
Ça veut dire quoi, la française?
Ça veut dire que le Parlement, par exemple, est facilement dans l'opposition, gauche-droite, par exemple, alors qu'on a un système politique qui est censé être travaillé sur le compromis et le consensus. Et je vois très bien que quand on était au Conseil d'État avec mes collègues, vous savez qu'on ne vote pratiquement jamais. On arrive pratiquement toujours à se mettre d'accord sur quelque chose. Chacun met un peu du sien. Par contre, Ça, c'est la politique suisse. Par contre, au niveau du Parlement, c'était plus compliqué. Donc, faut pas imaginer que parce qu'on est conseiller d'État, on change le monde, mais on essaye, à son échelle, d'orienter un petit peu les choses dans une direction peut-être un peu différente.
On parle de Genferaï en Suisse allemande, de Genevoiserie en Suisse romande. Ça reste un canton particulier sur son fonctionnement politique. Ça n'a pas changé, ça, Némerit Orasinta?
Je crois pas, et entendre ce que me disent soit des camarades de parti, soit d'anciens collègues du Conseil d'État, je crois que ça continue un peu de cette manière-là. Et c'est dommage, parce que c'est un canton qui a des richesses incroyables, mais qui a aussi une société à deux vitesses, qui est face à des enjeux de territoire, de place, enfin, etc. Et qui a un petit peu du mal à avancer. Et c'est vrai que quand je discutais avec mes collègues du Conseil d'État d'autres cantons, du DIP d'autres cantons, donc il y avait les écoles, ils étaient par exemple très surpris qu'à Genève, on n'avait pas les budgets forcément. Quand on a plus d'élèves, on n'est pas forcément plus de postes. Enfin, ça leur semblait iconoclaste un petit peu. Donc Genève, c'est vrai que c'est un peu un canton à part, mais c'est un beau canton que j'aime infiniment.
Mais comment débloquer le système? Alors c'est une ville-canton, ça aussi c'est très très particulier en Suisse. Comment faire pour débloquer le système? Si vous aviez la possibilité de le faire, vous commenceriez par quoi, vous?
Ben pourtant, quand on est conseiller d'État, on essaye. À mon avis, le dialogue, c'est la seule chose. Puis de faire prendre conscience que on est face à certaines échéances, on est face à certaines difficultés et qu'on ne peut pas les résoudre tout seul. Mais la particularité aussi pour Genève, c'est que ça passe avec la France voisine, puisqu'on exporte une partie de notre logement en France, qu'on importe une partie de notre main-d'œuvre de France voisine, donc on doit aussi collaborer avec la France voisine.
On doit payer pour le G7 à Genève, les frais de transport et de sécurité depuis l'aéroport. Ça, c'est une question purement d'actualité, mais je ne peux pas ne pas vous la poser, hein, Némerit Orasinta. Vous avez liberté de parole, puisque vous n'êtes plus en fonction. Oui. Mais ce débat est vif et pas réglé, quand même.
Alors, écoutez, Jacques Chirac avait eu la grandeur, si je puis dire qu'il payerait. En tout cas, la France avait payé une partie. On verra si Emmanuel Macron fait pareil. C'est vrai qu'il y a parfois, et je l'ai dit encore récemment, je crois, à la matinale, il y a une certaine condescendance, voire même une certaine arrogance parfois de la France face à la Suisse. On sait très bien que si on fait quelque chose à Évian, que Genève va être concernée. Et on aimerait des fois qu'on nous regarde un petit peu autrement, mais il faut dire aussi qu'on n'est pas dans l'Europe et qu'on le paye. Parce que je pense que très clairement, si on était dans l'Europe, eh bien, des discussions de ce type-là, elles peuvent avoir lieu de manière informelle. Vous avez une réunion de ministres européens ou de présidents européens, Parmelin croise Macron, on peut discuter, etc. La Suisse peut pas être à la fois dedans et dehors, ce qu'elle essaye de faire, et parfois ça lui joue des tours, et je pense qu'au niveau du G7, c'est qu'un petit exemple, ça peut nous jouer un tour, parce qu'on dit, écoutez, les Suisses, voilà, c'est votre problème, c'est pas le nôtre.
On sait peut-être pas très bien se défendre aussi, nous.
Peut-être, mais Parmelin a eu le courage d'écrire à Macron et lui dire ce qu'il pensait, si j'ai bien lu et entendu la presse.
J'ai pas vu la lettre, mais je sais qu'il l'a fait.
Voilà.
Allez, pour se détendre après ces questions, on va écouter un titre qui vous est cher, Némerit Orasinta.
wander through my playing cards. Wouldn't I let her be? One of 16 Vestal virgins were leaving for the coast. And although my eyes were open, they might just as well. Turn the wider shade of fair.
Qui n'a pas dansé sur les 4 minutes de ce slow de 1967, c'était Procol Harum, bien
quatre
sûr.
4 minutes pour conclure.
4 minutes pour conclure, faut être rapide. White Shade of Pale. Il paraît que vous avez toujours le 45 tours que vos parents vous avaient offert à Namri Torasanta.
Alors en fait, ils l'avaient acheté pour eux, pour être honnête, parce que moi j'avais même pas 9 ans, hein, c'était vraiment le slow et le tube de l'été 67, mais je sais pas pourquoi j'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup ce morceau. Et puis, il l'avait gardé. Je lui avais dit, vous me le gardez précieusement. Et puis là, en triant encore la maison de mes parents récemment, ils avaient beaucoup donné de disques, etc. Et ils avaient bien mis à part celui-là, précieusement, que j'ai récupéré.
C'est une relique.
Que je garde.
C'est une
relique, peut-être. C'est une autre époque, mais voilà.
Là, 67, ce sont vos années parisiennes. Ensuite, vous rentrez en Suisse. Lorsque vous étiez au collège à Genève, vous avez créé un groupe d'action qui militait pour l'aide aux pays du Sud. Donc, tout était déjà là?
Probablement. Effectivement, j'avais... Déjà, quand j'étais dans les années, fin des années 60, début des années 70, j'étais très marquée par la famine au Biafra. Biafra, c'est une région du Nigeria qui avait fait sécession. Et pour faire casser, en fait, cette sécession, le Nigeria a encerclé le Biafra, en quelque sorte, avait fait un blocus autour. Et il y a une famine épouvantable.
C'est
la première
images,
voilà,
hein,
c'est la première famine médiatisée de l'histoire.
Ou
voilà,
sans frontières,
exactement.
C'est
la naissance de.
Je me souviens, c'est l'image
voilà,
d'enfants.
Exactement.
Le ventre
et puis après, il y a eu quelques années après, il y a eu le Bangladesh. Ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé. Et puis c'est vrai que j'ai créé ce groupe avec des amis. Alors on faisait des actions, on a fait faire des dessins par des enfants d'école primaire, on vendait des dessins, enfin, etc. On a fait deux trois choses à l'époque. Mais c'est toujours cette idée que j'avais de me dire, on doit faire quelque chose. On peut pas rester sans rien dire et sans rien faire. C'est ça un petit peu peut-être ce qui m'a toujours motivée.
La Tribune de Genève avait titré en 2012 Annemarie Torasanta, l'obsession du social. Vous vous souvenez de ce titre?
Oui, je m'en souviens très bien. C'était, je pense, lié à la première campagne que j'ai faite pour le Conseil d'État,
oui,
la partielle contre Pierre Maudet. Enfin, contre Pierre Maudet, c'était les deux. On disait que c'était les deux personnes qui avaient le plus de chances d'y arriver. Il est arrivé largement devant. Et à l'époque, j'étais comme députée au Parlement, connue pour le social. Je m'étais jamais mêlée d'enseignement volontairement. J'étais enseignante, je voulais pas être dans les commissions parlementaires liées à l'enseignement. Et je me suis battue et j'ai d'ailleurs obtenu l'augmentation des allocations familiales à Genève, qui sont devenues à un moment donné les plus hautes de Suisse. Et c'est vrai que tout ce qui était social m'intéressait et je me préparais à prendre le social. Et puis la répartition, enfin les personnes élues ont fait que dès le soir, où on est rentré le soir des élections, j'ai dit à mon mari, mais j'ai bien l'impression que je vais me retrouver avec le DIP. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux, mais tu fais pas ça.
Ah, vous avez dit ça.
Mais j'ai pas vraiment eu le choix. Et c'est vrai qu'on était deux, Mauro Poggia et moi, à vouloir. Enfin, lui voulait la santé, moi le social. Et ils ont mis la santé et le social ensemble. Et le MCG avait fait un meilleur résultat. Puis on s'est dit, une enseignante au DIP, ça ira très bien. Et voilà.
Cadeau empoisonné ou pas?
Le DIP?
Oui.
Ah oui, très clairement. Mais en même temps, un département passionnant.
Ça a secoué, hein, pendant.
Oui, ça a secoué, mais c'est passionnant parce que c'est l'école et c'est l'avenir. Mais tout le monde a son avis sur l'école. En plus, on était en explosion démographique, donc vous courez tout le temps après les budgets, etc. Et puis, c'est très, très difficile de faire une réforme à Genève. Et ma collègue, Annick Pold, enfin, presque, enfin, future ex-collègue, Erling Pold, des fois, je la plains aussi parce que c'est pas toujours facile. Et je vois qu'elle fait des réformes qui vont dans le même sens que les miennes, parce que je pense qu'on n'a pas toujours le choix et que c'est pas une histoire gauche-droite. Enfin, à un moment donné, l'éducation, il y a des principes, on voit des choses qui fonctionnent moins bien, etc.
Pas tout facile de gérer, je sais pas combien d'enseignants
oui.
à Genève.
Oui, alors
Gérer les parents d'élèves aussi. Hein.
Oui, il faut gérer les parents d'élèves, le Parlement, les enseignants qui sont bien organisés, qui ont du mal à avoir envie de faire des réformes des fois. Et puis c'est un très gros département avec les remplaçants. On dit en gros 15 000 employés après les HUG. C'est bien plus que la Migros ou que Rolex ou que les grosses entreprises genevoises, par exemple.
Vous nous avez écrit 10 années passionnantes, que celles que vous avez passées au Conseil d'État. Pas toujours facile, entre parenthèses, c'est un euphémisme.
Oui, c'est ce que je vous disais, parce que rien n'est jamais acquis. Et si vous voulez, on pense toujours que quand on arrive au Conseil d'État, que les conseils d'État ont beaucoup de pouvoir. On va vraiment changer les choses. Alors, on va faire une réforme, on va faire ci, on va faire ça. On n'est pas la France. C'est pas quand Gabriel Attal était tout à coup à l'éducation, puis dit hop, on supprime les groupes de besoins au collège, ou hop, on les rajoute, on fait ci. Non, c'est pas ça, la Suisse. Et tout ça doit se construire, prend du temps, avec des contre-pouvoirs, et avoir une majorité autour d'un projet n'est pas toujours facile, mais en même temps on peut quand même avancer. Et puis la jeunesse, l'école, c'était pas seulement l'école, c'est aussi tout ce qui était jeunesse, protection des mineurs, etc. C'est quand même l'avenir, c'est l'avenir de notre société, c'est donc important comme département.
Mais tout le monde a été élève, et tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont parents d'élèves, donc évidemment c'est le seul département qui concerne toute la population.
Ouais. Tout le monde a un avis là-dessus.
Et tout le monde a un avis,
et tout le monde est spécialiste en pédagogie, c'est bien connu.
Évidemment.
Votre plus grand accomplissement, quel serait-il? Vous avez 2-3 ans de recul maintenant, après ces 10 années passées à la tête de l'instruction publique. Vous diriez quoi, Anne-Marie Thorin-Sainta?
Difficile à dire. Je pense que la réforme du cycle d'orientation, même si elle n'a pas abouti, puisqu'in fine il y a eu un référendum, elle a quand même ouvert la voie sur un cycle d'orientation qui sera plus divisé en sections, mais avec une forme d'hétérogénéité. C'est exactement ce qu'est en train de reprendre, en tout cas pour un des degrés, ma successeure Anit Pold. Donc je pense que là, par exemple, on a fait avancer les choses. J'ai aussi fait avancer les choses, même si c'était difficile, en matière d'école inclusive, c'est-à-dire d'arriver à l'idée de dire que d'abord, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des difficultés de tous ordres. Il y a aussi la question des enfants qui ont clairement un handicap, et que la société, elle est diverse, et qu'il faut que l'école aussi tienne compte de cette diversité. Et donc, aussi par petits pas, on est allé vers plus d'écoles inclusives, même si c'est pas encore l'école totalement inclusive telle qu'on l'a.
Plus d'argent, en fait.
Pas forcément, c'est pas que plus d'argent, c'est aussi travailler différemment. Quand dans une classe, et moi j'ai rencontré des enseignants incroyables à l'école primaire, mais quand dans une classe, même d'élèves dits ordinaires, vous avez une très grande différence, par exemple sur les petites 4 ans, entre un enfant qui parle pratiquement pas, qui a été tout le temps derrière les écrans, et puis un enfant qui était dans un milieu très stimulant, qui sait déjà pratiquement lire, ou qui a déjà les bases de la lecture, et puis qui sait compter, vous devez gérer l'hétérogénéité, même avec des enfants dits ordinaires. Et au fond, il faut se dire que voilà, c'est la réalité d'aujourd'hui, une école très diverse, très hétérogène, et que les enseignants doivent être aussi accompagnés avec d'autres professionnels, et que voilà, l'école n'est plus celle que j'ai connue enfant, très clairement.
Ça, c'est sûr.
Oui, probablement, parce que les quartiers étaient aussi peut-être plus homogènes, l'école était, on faisait moins de choses. Enfin, moi, je me dis toujours. Quand j'étais à l'école, il n'y avait pas les langues étrangères, il n'y avait pas l'informatique quand j'étais à l'école primaire. Aujourd'hui, vous demandez à un enfant, un petit enfant, d'apprendre l'allemand, les bases de l'allemand, d'apprendre l'anglais, de faire de l'informatique, de s'intéresser aux questions environnementales. Bon, on ne s'intéressait pas du tout quand j'étais enfant. Enfin, on avait une école...
C'était quoi, lire, compter
Oui, très répétitive sur les savoirs de base. Alors, c'était beaucoup sur la grammaire et l'orthographe. Aujourd'hui, on demande de faire tout ça. Et au fond, les enfants sont les mêmes qu'avant, probablement. Enfin, je veux dire, et pour certains, c'est difficile.
On en demande trop?
Peut-être. Vous savez, il y a le débat sur les langues aujourd'hui en Suisse, enfin depuis toujours. Alors moi, je maintiens qu'il faut bien évidemment pour nous apprendre l'allemand à l'école et pour les alémaniques le français. Mais dans un canton comme Genève, par exemple, l'introduction de l'anglais, c'est une vraie question. Je ne suis pas sûre que c'était... Là, on l'a dû le faire parce que c'était fédéral, c'était l'harmonisation scolaire. Mais quand vous avez... probablement aujourd'hui plus de la majorité des enfants qui parlent une autre langue que le français à la maison... Le français est déjà une langue étrangère pour eux.
Et vous leur demandez
l'anglais, enfin l'allemand d'abord, l'anglais, etc. On rajoute des difficultés. Alors, pour un enfant qui va bien, avec un milieu qui peut entourer, il n'y a pas de souci. Pour un enfant qui a un peu plus de peine, avec peut-être pas avoir la chance d'avoir des parents qui peuvent accompagner ou des proches qui peuvent accompagner, c'est un sacré défi.
Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait de nouveau un système à deux vitesses?
Non, mais simplement, il faut donner des moyens à l'école, il faut prendre le temps, il faut se dire que voilà, on va pas, enfin, on peut pas à la fois demander qu'on soit parfait, par exemple, en orthographe française.
Et la question demeure maintenant par rapport à
l'intelligence
artificielle.
Et en même temps, apprendre d'autres choses. Et c'est des vraies questions. Et avec l'IA, justement, ce qui va être très intéressant, c'est que ça repose la question de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Et peut-être plus forcément comme avant. Alors, on le voit maintenant déjà dans les travaux, alors de fin d'études, si le travail de maturité, ou ouais, le travail de recherche, ça fait plus de sens en tant que tel. Ouais. Alors, qu'on utilise l'IA, mais qu'après, le jeune puisse être capable de défendre.
Il y a la question d'interdire ou pas l'IA, mais finalement,
alors,
il ne faut pas l'interdire.
Moi, je pense qu'il faut l'utiliser, il faut l'apprendre à l'utiliser, mais on ne fait plus les mêmes choses. On va peut-être faire plus d'examens oraux pour discuter avec la personne, voir comment elle a compris les choses, etc. Voilà. Mais donc, l'école doit tout le temps s'adapter. Et ça, c'est aussi, je pense, difficile pour le corps enseignant.
Est-ce qu'on doit continuer, vous qui êtes historienne et enseignante de formation, d'apprendre les dates, maintenant qu'il y a l'IA et qu'on trouve toutes ces infos partout? Est-ce qu'il faut continuer de procéder ainsi dans l'apprentissage de l'histoire?
Alors, ça fait longtemps que ça avait changé. Enfin, en tout
alors,
cas,
pardon, moi, ça date.
Hein. Ah, vous avez dû apprendre par cœur toutes les dates?
Ah, bah oui.
Non,
oui.
Disons que, bon, je les oublie, certaines aussi assez vite. Je pense que certaines dates donnent un cadre. Il faut avoir le cadre général. Mais le détail des dates, c'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut, c'est comprendre les enchaînements, c'est comprendre le pourquoi, le comment, etc. Comment on en est arrivé là, faire les liens avec le présent. Moi, quand j'enseignais des périodes anciennes, je sais pas, par exemple le 16e ou autre, j'aimais beaucoup faire de l'histoire des mentalités et expliquer comment on se comportait, comment étaient les comportements, les rites sociaux, etc. à cette époque-là. Pourquoi? Et pourquoi c'est différent aujourd'hui? Et on était aujourd'hui dans une société très individualiste. À l'époque, au contraire, votre voisin vous espionnait, savait tout, etc. Et vous comprenez les choses par rapport à un environnement qui a changé. Et ça, je trouvais passionnant.
C'était la petite histoire qui raconte la grande. C'est comme ça que vous enseignez.
Ça dépend, oui, mais effectivement, toujours ramener les choses à l'être humain et se dire l'être humain n'a pas fondamentalement changé, mais l'environnement change et c'est l'environnement qui vous façonne.
La question des écrans à l'école, comment la régler? Là, vous avez été ministre de l'éducation du canton de Genève, l'interdiction dans les préaux, l'interdiction dans les classes, l'IA, comment il faut procéder là? On est tous un peu perdus, on est tous parents, pour mon cas,
pratiquement. Vous avez une minute.
Qu'est-ce qu'on fait là?
Vous avez une minute pour
répondre. Apprendre à l'utiliser. Alors, faut pas mettre trop, et surtout pas les petits trop longtemps devant des écrans, mais il faut apprendre à les utiliser. Ça peut être aussi un outil fantastique pour des enfants qui ont des difficultés, par exemple des enfants qui ont de la dyslexie ou de la dysorthographie, etc., ou bien pour avancer chacun à son rythme. Donc, faut apprendre à utiliser les écrans, faut pas en avoir peur, mais voilà, il faut le faire avec modération.
Pas interdire et apprendre à utiliser l'outil. Anne-Emery Torrasinta, vous êtes notre invitée dans cette drôle d'époque. On reviendra dans la deuxième heure, dans quelques instants, sur cet ouvrage, Dans l'ombre du génocide des Tutsis, la Suisse et le Rwanda, 1950-1994. C'est paru chez Slatkin. Il y a pas mal de zones d'ombre, en effet, encore. Et, bah voilà, on va écouter les nouvelles du monde. On va parier que ça va vous intéresser. Peut-être qu'on va parler de Genève, du G7 ou de tout un tas d'autres sujets. Bah oui, c'est ce qu'on attend. Oui. Sur RTS Première, il est pile 16h. À tout de suite.